Chers amis des cellules, bonjour. Le troisième dimanche du temps ordinaire est marqué par un appel à la conversion que nous trouvons à la fois dans l'Évangile et dans la première lecture. Je vous propose aujourd'hui de méditer à partir de cette première lecture tirée du livre du prophète Jonas. Commençons par écouter le texte. Il est tiré du chapitre 3 du livre de Jonas, les versets 1 à 5 et le verset 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Fin de la lecture. Peut-être avez-vous remarqué que l'on disait que la parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. De nouveau à Jonas. En effet, elle fut déjà adressée à Jonas. Le Seigneur lui avait déjà demandé au chapitre 1 de se lever et d'aller à Ninive, la grande ville païenne. Mais dans un premier temps, Jonas a fui. Jonas a fui l'appel du Seigneur, Jonas a fui la mission que le Seigneur voulait lui donner, et l'on nous dit même que Jonas voulait aller loin du Seigneur. Le Seigneur lui enjoignait d'aller à Ninive, plein est, et que fait Jonas? Il se lève, descend au port de Joppé pour prendre un vaisseau pour Tarsis, c'est-à-dire pour le plein ouest. Tarsis, c'était une ville en Espagne. Nous pouvons donc noter que le Jonas qui se rend à Ninive pour annoncer la parole du Seigneur est un Jonas qui a déjà fait lui-même un travail de conversion. Celui qui est envoyé appeler Ninive à la conversion a lui-même dû vivre une conversion radicale. Le point de départ de Jonas n'était pas un enthousiasme pour la parole du Seigneur, mais bien une fuite et la volonté d'aller le plus loin possible du Seigneur. Lorsque la tempête secoue le bateau dans lequel Jonas était monté pour Tarsis, alors que les marins s'agitent pour essayer d'écoper dans le bateau, Jonas, lui, est complètement hors de l'action. Il est dans un profond sommeil tout au fond du bateau. Il apparaissait complètement passif, aussi passif qu'un mort. Et c'est d'ailleurs le seul avenir qu'il se voit lorsque finalement les marins s'aperçoivent que c'est à cause de lui que cette tempête les secoue. Jonas propose qu'on le jette à la mer. Il pense bien y périr. Remarquons la noirceur de l'état spirituel de Jonas à ce moment-là. La parole du Seigneur provoque en lui un dégoût profond. Il essaie de la fuir de toutes ses forces. Il se retrouve dans un état où il est complètement passif. Il lui semble, parce que il n'a pas mis en pratique la parole du Seigneur, que son seul avenir désormais, c'est la mort. Et que c'est ça que le Seigneur veut pour lui, du coup. Or, la suite du texte nous montre que le projet du Seigneur est un autre projet que la seule mort pour Jonas. Vous vous souvenez de l'histoire, jeté à la mer, Jonas est avalé par un grand poisson, un monstre marin. Jonas passe 3 jours et 3 nuits dans les entrailles du poisson, et ce temps d'enfouissement, plus profond encore que la cale du bateau où il dormait passivement, devient le lieu non pas d'un anéantissement, mais d'un retournement. Voilà que, apparemment, au fond du trou, au fond de la fosse, au fond des eaux, au fond des entrailles du poisson, C'est là que Jonas se souvient du Seigneur et refait la rencontre du Seigneur. Voilà que Jonas, qui voulait fuir le Seigneur, se rend compte que le Seigneur veut faire remonter sa vie. Il y a à la fois une œuvre, une initiative du Seigneur vis-à-vis de Jonas et une réponse de Jonas à cette initiative. Les deux libertés se rencontrent. Les entrailles du poisson, qu'on aurait imaginé comme le lieu de la mort et de l'anéantissement, deviennent en fait le lieu d'une transformation, d'un retournement, on pourrait même dire d'un enfantement. En effet, le texte nous donne le détail suivant. Lorsque Jonas est avalé par le poisson est au masculin. Lorsque Jonas commence à prier dans les entrailles du poisson devient féminin. Le ventre du poisson qui avait avalé Jonas devient l'utérus de la poissonne, entre guillemets, qui contient Jonas avant de le rejeter sur la rive après sa transformation. Une sorte d'enfantement de Jonas. Finalement, là où on pensait que la destruction allait survenir, c'est un retournement, c'est une transformation qui s'est opérée. Lorsque l'on a remarqué cela, la parole de Jonas adressée aux Ninivites prend une nouvelle portée, car ce qu'il dit, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite », littéralement c'est « Encore 40 jours et Ninive sera retournée », sens dessus-dessous. De fait, cela peut correspondre à une destruction, mais cela peut correspondre aussi à un retournement, une conversion, un changement radical du cœur. La volonté du Seigneur n'est pas ultimement la destruction, mais la disparition de la méchanceté, le renoncement à la méchanceté au profit de la justice. Ainsi, celui qui appelle les autres à la conversion au nom du Seigneur, et cet appel à la conversion au nom du Seigneur est une œuvre de miséricorde spirituelle, rappelons-le. Celui qui les appelle à la conversion, donc, doit lui-même avoir fait l'expérience de la conversion au nom du Seigneur, de sa conversion personnelle au nom du Seigneur. Il doit avoir perçu le retournement, et non pas l'anéantissement, voulu par le Seigneur, qui s'est produit dans sa propre existence. Cela passe par l'expérience de notre propre pauvreté. Je suis au fond de la fosse, je n'arrive pas à m'en sortir, je voudrais peut-être simplement disparaître, car cela me semble au-delà de mes forces. Mais la fosse que j'imaginais être la tombe est en fait le ventre où je suis enfanté. Le lieu où le Seigneur veut me transformer, le lieu où le Seigneur me donne une grâce pour remonter, pour aller, pour vivre, transformer. Nous sommes ainsi appelés à croire que le Seigneur veut nous donner cette grâce de conversion et à croire que nous pouvons recevoir et conserver cette grâce de conversion. Voyez, à la fois un acte de foi vis-à-vis de la bonne disposition de Dieu vis-à-vis de nous, il veut notre vie, et de croire aussi en notre capacité d'accueillir, de conserver, de faire grandir cette grâce dans notre vie. Nous sommes appelés à croire que le Seigneur veut notre retournement, pas notre anéantissement, à croire qu'il nous donne une grâce pour cela, une grâce qui peut chasser notre lassitude, ou en tout cas notre torpeur, croire que cette grâce est recevable, croire qu'elle nous transformera, croire qu'elle aura du fruit aussi pour ceux que nous rencontrerons. Le livre du prophète Jonas nous montre encore une petite chose. Nous avons vu ce retournement de Jonas qui met en œuvre la parole de Dieu, qui est sorti de sa torpeur, mais ça ne signifie pas que Jonas n'aura plus de combat spirituel. On voit dans la suite du récit que Jonas continue à râler assez régulièrement. si le retournement du cœur de Jonas a bien eu lieu, sa purification complète nécessitera encore du temps. Comprenons alors à notre tour que notre purification complète demandera aussi du temps, et que s'il nous arrive encore de râler, de rechigner, ça ne veut pas dire que notre cœur ne s'est pas retourné. Le Seigneur nous a donné sa grâce, elle a travaillé en nous et elle continuera à travailler en nous. Puissions-nous, à l'école du prophète Jonas, nous laisser retourner par le Seigneur pour devenir ses instruments et inviter ceux vers qui il nous envoie à retourner à leur tour leur cœur et à demeurer dans l'Alliance. Je vous souhaite de bons échanges.